Comme chaque mercredi à 17h30, vous retrouvez le magazine USTL Info. Et pour mieux vous faire connaître donc l'Université de Lille, chaque semaine, c'est un nouveau sujet que nous abordons aujourd'hui. Ce sera la recherche en automatique. Et nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Collot. Bonjour Olivier Collot.
Bonjour René.
Donc vous êtes professeur des universités à l'Université de Lille et directeur adjoint de...
Du LAGIS, qui veut dire Laboratoire d'Automatique, Génie Informatique et Signal, qui est une unité mixte de recherche du CNRS.
Voilà. Donc, la recherche en automatique. Alors, c'est vrai que curieusement, on utilise beaucoup dans la vie quotidienne l'automatique, mais on ne sait pas toujours ce que c'est de l'automatique par rapport à d'autres, à l'électronique, à l'informatique, etc. Comment on peut définir le champ de l'automatisme ?
Ah, alors je vais vous donner une définition qui vaut ce qu'elle vaut. On va dire que l'automatique, c'est la discipline qui étudie les systèmes dynamiques, les signaux et l'information à des fins de conduite de systèmes plus ou moins complexes, et également pour faire de la prise de décision.
Alors, ça regroupe certainement beaucoup d'utilisations. Je pense comme ça, par exemple, qu'est-ce que ça a à voir avec la domotique ?
Ah, avec la domotique, bien... dans une maison équipée de systèmes domotiques où il faut commander un certain nombre de dispositifs. On peut par exemple penser à l'ouverture ou la fermeture de volets, ou bien au déclenchement de produits électroménagers. Eh bien, il faut avoir les systèmes qui vont faire la commande nécessaire pour lancer ces processus, on va dire. Mais il y a également la dimension, je dirais, surveillance de l'habitat, qui peut passer par de la prise d'informations sous forme visuelle avec des caméras ou bien des détecteurs de mouvement, et qui peuvent être analysés par des systèmes automatiques. Alors souvent, ce sont derrière des logiciels qui tournent pour analyser ces signaux et lancer éventuellement les ordres nécessaires vers les dispositifs auxquels ils sont reliés.
Alors, il y a un certain temps, on parlait de la maison de l'an 2000 comme étant uniquement de la technologie, de la domotique, et que les personnes auraient qu'à se laisser faire par les machines qui étaient organisées pour répondre aux moindres besoins. On en est quand même très loin.
On en est loin. Si vous voulez, je dirais que l'intelligence des systèmes, ça n'est pour l'instant pas autre chose que, et heureusement, que l'intelligence que l'homme est capable de lui mettre à l'intérieur. Donc l'évolution de ces systèmes automatiques repose sur avant tout l'intelligence humaine et sur sa capacité à développer des méthodes et des technologies qui soient plus performantes de jour en jour. Alors évidemment, après, tout dépend des finalités de ces dispositifs que l'on souhaite développer.
Donc, ce qui veut dire qu'un automaticien, c'est quelqu'un doté ou doué de beaucoup d'imagination. Autrement, on ne va pas très loin dans ce métier.
Comme tout chercheur, je pense que les chercheurs, ce sont avant tout des gens qui sont curieux et des imaginatifs. C'est Einstein qui disait la connaissance finalement est limitée, l'imagination est infinie. Et je pense que ça résume finalement assez bien ce qu'a peut être un chercheur. C'est un imaginatif, c'est quelqu'un qui va se projeter vers l'avenir et qui va essayer d'imaginer des solutions pour répondre à des problèmes posés.
Alors, il y a à la fois des problèmes posés par des gens extérieurs qui ont des besoins, je pense aux entreprises, à l'automatisation dans les entreprises, etc. Puis aussi les gens qui cherchent, d'un point de vue très théorique, non, sur l'automatique.
Oui, tout à fait. Alors, cette discipline, elle allie à la fois les recherches fondamentales, développer de nouvelles approches méthodologiques avec des outils mathématiques éventuellement très poussés, mais elle est en lien aussi avec des domaines d'application. Alors, pour prendre l'exemple de mon laboratoire, on est impliqué dans des applications liées au transport, liées au système de production, mais également à ce qui touche la santé par le biais de l'imagerie médicale, par exemple. Essayer de développer des techniques d'analyse automatique des images médicales afin d'aider les médecins à poser un diagnostic, par exemple.
Est-ce que vous pensez, et quelle est la limite au développement de cette partie médicale pour substituer une partie de l'action du médecin?
Alors d'abord, on ne se substitue pas au médecin.
De l'action, hein, j'ai pas dit de concept.
Oui, non. Et ni de l'action. On se place, je dirais, plutôt comme une aide. Une aide à sa pratique, une aide à son métier de médecin pour poser, comme je le disais, l'aider à poser un diagnostic lorsque eh bien, il faut analyser des quantités d'informations. Mais ce ne sera jamais le système qui posera le diagnostic, ce sera le médecin qui, en ayant un complément d'informations apporté par un système, j'allais dire automatisé, va pouvoir orienter son diagnostic.
On a parlé à un moment donné de diagnostic à distance. Est-ce que, par exemple, dans notre région, qui est sous-équipée peut-être en matériel, mais qui est surtout pauvre en médecins ou en spécialistes, est-ce que ça peut être une solution de traiter à distance, de consulter à distance, d'émettre des diagnostics, voire des traitements?
Alors, il y a déjà des expériences qui ont été menées ou des télésurveillances, enfin pas télésurveillance, mais des télédiagnostics d'effectuer au travers de systèmes de communication que l'on connaît bien, qui peuvent aider lorsque l'on est confronté, bon, je ne suis pas médecin, soyons clairs, mais lorsqu'un médecin a un doute sur une pathologie dont il n'est pas forcément un spécialiste, qu'il puisse faire appel à un spécialiste distant, en lui donnant les moyens d'avoir une information utile, exploitable, que ce soit sous forme d'image, éventuellement complétée par d'autres informations, ça peut être une solution pour permettre derrière la mise en œuvre de l'action nécessaire pour traiter un patient.
On peut imaginer des grands spécialistes internationaux qui sont interrogés du monde entier?
Pourquoi pas? C'est question de disponibilité.
Donc, sur la partie qu'on connaît des applications de vos travaux, de vos recherches, il y a des domaines, par exemple, très, très évidents comme la voiture, les transports. Donc, la personne est immédiatement confrontée à des évolutions très rapides dans ces domaines avec des côtés intéressants, des côtés moins. Hein. Par exemple, sur certaines voitures, il y a des télécommandes, on ne peut plus toucher à rien, parfois ça se bloque, on est embêté, même les clés ne fonctionnent plus, ou on se retrouve dans des endroits où il y a des ondes parasites et la voiture ne s'ouvre plus ou ne se ferme plus. Enfin, il y a quand même des choses curieuses qui se passent parfois. Comment on maîtrise tout ça?
Alors effectivement, on peut être confronté à des perturbations qui vont ennuyer le fonctionnement normal du système. C'est clair que les dispositifs actuels ne sont pas totalement exempts de reproches dans un certain nombre de situations. Mais je pense que c'est justement en analysant aussi ces problèmes que on peut y réfléchir et tenter d'apporter des solutions pour faire en sorte que ces perturbations ne gênent plus le fonctionnement normal du système. Donc ça, c'est un travail d'analyse et de compréhension et ensuite d'imagination de solutions nouvelles.
Alors, on a entendu parler de ces accidents qui étaient liés à des défections, des systèmes défectueux de freinage. Est-ce que vous avez un rôle quant à la solution ou quant à l'expertise qui permet d'identifier les responsabilités, par exemple?
Personnellement, non. Je ne crois pas que mes collègues aient été sollicités pour être experts dans ce genre de situation. Enfin, pas à ma connaissance. Je dirais que dans les phénomènes d'accidentologie, les responsabilités que l'on va commencer à rechercher, elles sont d'abord de celui qui conduit le véhicule, mais parallèlement aussi au constructeur, puisque c'est lui qui, finalement, a mis sur le marché un véhicule éventuellement défectueux.
Alors, ces normes de sécurité, disons dans les applications professionnelles, elles sont identiques ou de même niveau, on va dire, entre les différents pays? Est-ce que les prix influent sur la qualité des services ou des mises en œuvre de matériel, par exemple, sur le marché?
Très clairement, plus un système est sophistiqué, plus il est cher. L'accès aux technologies avancées, ça a un coût. Et donc, je pense que, en raisonnant sur l'ensemble de notre planète, tout le monde n'a pas les mêmes possibilités d'accéder à des ressources technologiques identiques.
Maintenant, c'est vrai aussi que plus le système est développé au niveau international ou en termes de nombre, et plus il est rentabilisé, donc moins il coûte, non ?
Ah, effectivement, une technologie qui débarque sur le marché va avoir un coût relativement élevé, mais très rapidement, si la demande est très importante, le prix diminue. On l'a connu avec les ordinateurs portables, par exemple, où les coûts ont diminué de manière extrêmement forte et assez rapidement.
Donc en même temps, plus la recherche est aboutie et le produit efficace et intéressant, plus ils sont rentabilisés par des développements commerciaux qui rentabilisent l'opération initiale.
Oui, quelque part, oui, bien sûr.
Donc on a intérêt à rechercher la qualité.
On a de toute façon intérêt à rechercher la qualité, je pense.
Donc, dans l'ensemble des champs, on a certainement oublié des grandes applications auxquelles on n'a pas encore pensé à cette heure-ci de l'émission.
Certainement.
Par exemple.
Alors, d'autres applications sur lesquelles nous penchons au laboratoire, je vais prendre un ou deux exemples. Alors, depuis maintenant, on va dire 2 ans. J'ai un collègue qui s'intéresse à ce que les Américains appellent le BCI, le Brain Computer Interface, ce qui veut dire l'interface cerveau-ordinateur, et là qui a pour vocation d'offrir des moyens de communication palliative à des gens qui sont lourdement handicapés. Donc ça va nécessiter d'essayer d'offrir des moyens de communication ou d'action avec l'extérieur lorsque les gens ont perdu toute mobilité. Par exemple, le Locking syndrome, qui est fort connu, ça pourrait être un moyen de redonner un petit peu d'autonomie aux gens. Alors, on peut s'intéresser dans ce cadre-là en récupérant les signaux électroencéphalographiques, donc ce que l'on récupère sur le scalp, donc sur la tête de l'individu, d'analyser ces signaux qui peuvent ensuite, lorsqu'ils sont bien compris, pourrait permettre la commande de systèmes destinés à agir à la place du patient qui ne peut plus, enfin du handicapé qui ne peut plus.
Alors, dans notre région, on peut dire que c'est une région technologique développée, on va dire ça. Et par exemple, il y a un géant informatique qui s'installe à Lille actuellement, pas loin du canal.
Oui.
Est-ce que pour vous, c'est une opportunité? Il y a des possibilités de partenariat? Et est-ce que cette firme internationale est intéressée par ce qui peut se passer dans les labos ici?
Alors, d'abord, je vais faire un petit préalable, puisque les automaticiens sont en relation aussi avec d'autres disciplines que la leur, comme par exemple l'informatique. Alors, la société à laquelle vous faites allusion est d'abord une société d'informatique, donc je pense qu'elle va peut-être d'abord se tourner vers les spécialistes de l'informatique, mais bien évidemment, pourquoi pas vers les disciplines sœurs ou connexes, comme l'automatique, pour développer des choses très, très, très particulières.
Parce que je pensais à l'assistance justement à des personnes défaillantes ou ayant des difficultés dans certains domaines.
peut-être que ça pourrait les intéresser.
Est-ce qu'il y a un effet d'émulation, en fait ? C'est aussi ce que je voulais dire dans ma question à l'implantation de nouvelles technologies. Ici, on est sur l'université, on est aussi sur la ville de Villeneuve-d'Ascq, qui est une technopole.
Oui.
Tout cela, ça aide ?
Oui, ça aide. Il y a des synergies possibles. Il y a déjà des synergies qui existent entre différentes disciplines, j'allais dire universitaires, mais qui vont au-delà, qui peuvent être en lien direct avec le monde économique ou socio-économique, mmh. et en particulier avec un certain nombre d'entreprises qui peuvent avoir des besoins ou exprimer des besoins et venir chercher des solutions dans les laboratoires de recherche.
Alors, on a bien compris votre inscription dans l'avenir, la préparation de l'avenir et la réponse à des problèmes à la fois qui peuvent être quotidiens, mais aussi des domaines spécifiques. Est-ce que, par rapport à des étudiants, des gens qui viennent se former, éventuellement chercher, c'est un métier d'avenir ?
Oui, enfin oui, je pense, oui, très, très sérieusement, oui. D'abord parce que les étudiants qui sont formés dans les disciplines de l'automatique n'ont d'abord pas trop de difficultés à trouver un emploi. D'ailleurs, ça veut dire qu'il y a un potentiel d'employabilité relativement important. Mmh. Et puis, sur les aspects, j'allais dire, plus recherche, il y a des problèmes encore ouverts, il y a des choses à développer. Et puis, ceux qui seraient attirés par la recherche ont tout à fait les moyens de s'exprimer et de s'épanouir au sein d'une discipline telle que la nôtre.
Alors, qu'est-ce qu'il faut comme prérequis, sinon comme prédisposition pour entamer ce genre d'études ou de carrière ?
Alors, tout dépend de carrière scientifique pure ou, on va dire, de filière éventuellement avec une sortie plus professionnalisante. Je dirais qu'il faut avoir un certain background sur les aspects fondamentaux, mais comme dans beaucoup de disciplines scientifiques, hein, que mm-hmm. ce soit les mathématiques, par exemple. Avoir le goût de la rigueur, ça c'est indispensable quelque part. Et puis la curiosité, je pense que l'on soit chercheur ou pas chercheur, je pense que la curiosité, c'est un point fondamental et c'est ce qui permet aussi d'avancer et de progresser.
Alors, en automatique, est-ce qu'on peut imaginer des gens qui s'arrêtent au bac pro et qui trouvent du boulot, par exemple ?
Alors, au niveau du bac pro avec une orientation déjà automatique, j'avoue que je ne connais pas très bien le secteur du bac pro, donc je serais assez en peine de vous répondre. Mais j'imagine qu'il doit y avoir un potentiel d'emploi. Maintenant, je pense que les besoins sont peut-être à un niveau au-dessus.
D'accord.
Au moins bac plus 3.
Voilà.
Donc plutôt licence professionnelle et au-delà, licence par suivi d'un parcours de master, mm-hmm. par exemple. Mm-hmm.
Alors, les entreprises qui sont intéressées par les étudiants de l'ILIN sont des entreprises de la région ou hors région ?
Les deux. Les deux. Il y en a un certain nombre dans la région, mais beaucoup de nos anciens étudiants ont trouvé de l'emploi dans d'autres régions que notre région. Mais pas seulement en région parisienne, d'ailleurs.
Et des parcours à l'étranger, ça existe ?
C'est tout à fait envisageable.
Dans le cadre des stages également ?
Bien sûr. Mmh. Bien sûr, on a des étudiants qui, dans des masters pro en particulier, sont allés faire leur stage à l'étranger.
Mmh. Quand on va à l'étranger, on a l'impression d'être en position de force ou en position d'apprendre ?
Quand on est à l'étranger.
Ouais, c'est-à-dire l'impression qu'on dit on sait plus que les autres ou on sait.
Je pense qu'on apprend de toute façon toujours. Ça, c'est une.
Ça dépend du pays peut-être aussi, non ? Est-ce qu'il y a un phénomène psychologique de. Comment je peux dire, de sentiment un peu de supériorité ou je sais pas, ou d'infériorité, hein, selon le pays dans lequel on va aller en stage ou travailler.
J'ai pas le sentiment qu'il y ait d'impression de supériorité ou d'infériorité. Je pense qu'on n'a pas d'infériorité. Je ne pense pas. On n'a pas à rougir de ce que l'on sait quand on a fait un cursus, je dirais en France, bien au contraire, on le sait bien. Je pense qu'il faut éviter de rentrer dans l'écueil de se penser supérieur aux autres. Hein. Je pense qu'il y a des grandes nations qui ont des niveaux d'éducation et des niveaux de technologie face auxquels on n'est pas ridicule, mais devant lesquels il ne faut pas se montrer non plus supérieur.
Alors, pour ceux qui sont intéressés par la mobilité, quels sont les pays d'avenir où on demande justement des gens, soit des chercheurs, soit des gens qui ont un bon niveau?
Il y a une liste qui peut être relativement large. Moi, je connais des exemples d'étudiants avec un parcours recherche ou plutôt un parcours professionnalisant au niveau M2, sont allés par exemple au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne.
La barrière de la langue, ça existe chez...
La barrière de la langue. Je ne pense pas. Les Français ne sont pas réputés pour être particulièrement polyglottes, mais je pense que de manière générale, il y a un minimum de background en anglais qui permet de se débrouiller. Bon, après, quand on est sur place et qu'on pratique la langue, on s'améliore très sensiblement.
En général, le niveau d'anglais des étudiants semble suffisant, enfin, pour arriver à correspondre avec des personnels ou des partenaires locaux.
Ben écoutez, de ce que j'en perçois, oui. Je dirais que c'est d'un individu à l'autre, ça varie. On ne peut pas tirer de règle générale. Mais un certain nombre de cas me font penser qu'ils n'ont pas eu spécialement de difficultés et à se faire comprendre et à comprendre.
Il y a du vocabulaire spécifique qui correspond à votre profession, entre guillemets ?
Alors, du vocabulaire technique, oui, comme dans toute discipline.
Donc en anglais, par exemple, il y a des termes...
Il y a des terminologies...
Il y a des lexiques particuliers qui sont relativement
bien connus et qui s'apprennent assez vite. Hein. Mm-hmm.
Comment sont les échanges entre chercheurs du monde entier dans votre domaine ? C'est facile ? C'est intéressant ? Ça se passe où ?
Oui, nous accueillons, au laboratoire, nous avons tous les ans des chercheurs invités de pays étrangers. Alors, je ne vais pas tous les balayer, mais en Europe, nous avons des Roumains, des Bulgares, mais nous avons aussi des Indiens, des Chinois. Il y a un spectre assez large. Mmh.
Quelles sont vos préoccupations actuelles ? Alors, on peut les définir de deux manières. Les préoccupations quant à des sujets de recherche pour savoir si vous collez à l'avenir, ou ce qui peut être supposé ou présupposé comme étant l'avenir. Et puis les préoccupations peut-être d'ordre purement matériel.
Ah, alors, pour ce qui est des perspectives d'avenir en termes de profession, on va dire, sur l'aspect plus professionnel. Vraiment, j'espère que mon laboratoire continuera d'être très actif et bien reconnu dans le domaine qu'il occupe et continuera à développer des solutions innovantes et qui en font un acteur qui est bien perçu. Maintenant, nous sommes en train d'examiner aussi, à développer des relations avec des collègues d'autres domaines, parce que je pense que ça, c'est important. d'exister en tant que discipline, mais d'être ouvert aussi sur d'autres disciplines, avec, que ce soit localement, pour le plus grand bien, j'espère, de l'université et de mon laboratoire, mais également plus largement sur l'extérieur. Maintenant, voilà.
Est-ce que vous avez des besoins auxquels vous cherchez actuellement des solutions ?
Alors, oui. Oui, oui, oui.
C'est
oui.
Le moment. Hein.
Alors, nos besoins, je dirais que... Mais je pense que nous ne sommes pas les seuls. Les ressources humaines sont l'une des difficultés assez récurrentes. Pouvoir attirer de bons chercheurs, qui, et en particulier de jeunes étudiants qui souhaiteraient faire un doctorat, c'est important, puisque... Mm-hmm. Ils ont une part essentielle dans le développement de la recherche et pour faire avancer les choses, nous avons besoin de toutes les bonnes âmes qui voudraient bien se pencher sur nos problématiques. Et ça, c'est une première chose, oui, peut-être la première dimension. Parce que je crois que la recherche, c'est aussi une activité de jeunes pousses. C'est par leur curiosité, leur imagination et leur dynamisme que nous avançons aussi.
Alors, sur l'université, je sais qu'on essaye de préserver un peu le patrimoine des matériels ou des objets d'expérimentation depuis même plus d'un siècle, en fait. Est-ce que le regard ou le recul que vous avez sur les pratiques et les technologies antérieures vous amuse, ou comment vous voyez le passé, par exemple ? Et peut-être après, comment vous voyez l'avenir,
hein ? Je ne sais plus qui disait que pour avoir un avenir, il faut déjà bien connaître son passé. Mmh. Et je pense que c'est nécessaire d'avoir une connaissance du passé, de l'histoire, de ce qui existait avant soi, quelque part, et qui permet de mieux comprendre les évolutions auxquelles on peut être... que l'on peut observer soi-même ou dans lesquels on est acteur. L'avenir ne se construit que sur le substrat de l'antériorité, et c'est par couches successives, par strates, c'est par un pas après l'autre que l'on avance.
Olivier Collot, je vous remercie.
Merci à vous.